Vous écoutez, on lit pour vous.
Les évincés de la rue. Un texte de Quentin Dufresne, paru le 18 août 2024 dans la presse. Enjeu de sécurité et de salubrité pour les villes, les campements de sans-abri sont régulièrement démantelés par les autorités. Ces lieux sont pourtant le refuge de personnes vulnérables qui les considèrent comme leur chez-soi. Or, ces expulsions les poussent encore davantage vers l'exclusion et la précarité, et constituent, selon l'ONU, une violation des droits de la personne. Tu perds tes repères, tu perds tout. Richard Côté regarde dans le vide, avec un air sidéré, alors que le bruit du camion à ordures s'estompe en s'éloignant de ce bout de terrain qui était sa maison encore quelques minutes plus tôt. Pour lui, comme d'autres personnes en situation d'itinérance, c'est une autre expulsion forcée et encore plus de précarité. « Je commençais à être installé, soupire Richard Côté. Le matin, j'ouvrais mon petit poêle, je me faisais des œufs et des hot-dogs. Ce mercredi 17 juillet 2024, les employés de la ville de Montréal sont arrivés au petit matin, accompagnés de policiers, non pas pour lui proposer une option d'hébergement, mais avec l'ordre de démanteler le campement de fortune qu'il s'était fait le long de la piste cyclable des Carrières depuis le mois de mars 2024. Pendant qu'il remplit une poubelle des derniers biens qui lui restent, une préposée à l'entretien de la ville nettoie le terrain des derniers signes de vie qu'auraient laissés ses habitants. Ça me fait mal au cœur de devoir faire ça, car il faudra qu'ils se relocalisent ailleurs, alors que ça a été tout un travail pour eux de monter tout ça, avoue l'employé municipal qui préfère demeurer anonyme. C'est dur. Je trouve ça plate. Ce jour-là, ses derniers échanges avec Richard Côté furent un simple sourire, quelques cigarettes et le peu de monnaie qu'elle avait sur elle. Une question de survie. Sous un pont du Mile End, deux amoureux de longue date passent le temps au milieu des bâches, de leurs tentes en plastique et des objets qui leur servent au quotidien. La vie de Jiminy Cates et de son partenaire Rafi, originaire de Nouvelle-Écosse, est rythmée par les avis d'éviction qui les forcent à se reconstruire continuellement une nouvelle maison. Jiminy Cates sait ce que peut coûter un démantèlement. Rien que depuis le début de l'année, elle et son partenaire ont dû déménager deux fois après avoir reçu un avis de la ville de Montréal. Avec le temps, elle a appris à protéger ses biens les plus chers afin qu'ils ne servent pas de nourriture aux camions à ordures. Jiminy Cates nous explique « C'est comme si tu quittais ta maison pour aller au travail et qu'il y avait 50% de chance que lorsque tu rentres, tout soit disparu. Ta maison entière n'est plus et tout ce que tu chéris est parti. C'est stressant sur le long terme quand les personnes vivent ça quotidiennement. Malgré sa joie de vivre contagieuse, elle ne peut cacher la colère qu'elle ressent vis-à-vis des personnes employées pour démanteler son campement. « Je ne suis pas l'oppresseur, et le gars sous qui crie sur le trottoir non plus, dit-elle. L'oppresseur, c'est cet immense groupe de personnes qui possèdent toutes les armes existantes et qui peuvent légalement les utiliser sur toi sans raison. » La sécurité vient en étant nombreux. « C'est comme une famille », explique Jiminy Cates en décrivant la vie au campement. Pour elle, la vie en communauté permet de veiller les uns sur les autres, notamment dans les pires situations telles que des surdoses. « Tu finis par être super proche de tout le monde, » dit-elle, « même si tu n'aimes pas la personne qui vit à côté de toi. Si un jour elle se réveille et qu'elle ne va pas bien, tout le monde va venir pour l'aider. » La jeune femme peine à s'expliquer l'approche des autorités à l'égard des campements. « Qu'est-ce qui est mieux ? Avoir un seul feu sous contrôle ou avoir plein de petits feux partout, demande-t-elle. Les campements, c'est aussi une question de survie, car la sécurité vient en étant nombreux. Il nous faut, en tant que communauté, nous assurer que cette personne dans la rue est en sécurité, ajoute-t-elle. Il ne s'agit pas de la soumettre à davantage de stress en l'isolant et en la pointant du doigt. Ils se font enlever tout ce qu'ils avaient. Assis sur son canapé, dans le studio qu'il occupe depuis 7 mois, Guylain Levasseur se souvient très bien de ses années vécues dans la rue et des conséquences des démantèlements sur les vies humaines. Il a été parmi les résidents du campement qui avait vu le jour à l'été 2020 le long de la rue Notre-Dame-Est et dont il supervisait le bon fonctionnement. Au moment de son démantèlement, au début de l'hiver 2020, plus de 120 personnes s'y étaient créées, une communauté. On avait une équipe pour la cuisine, une pour l'entretien, et on avait des bacs à recyclage, raconte Guylain Levasseur avec le sourire aux lèvres. Il évoque ensuite, avec beaucoup d'amertume, cette journée de décembre 2020, où les autorités sont arrivées pour démanteler le campement après qu'une des tentes a pris feu. « J'en ai perdu du stock ce jour-là, » dit-il. « On a perdu tous les équipements de cuisine, les bouteilles de propane, tout s'est retrouvé dans des conteneurs et la majorité du monde n'a pas retrouvé ses affaires. » Guylain Levasseur affirme que ce jour-là, de nombreuses tentes jetées aux déchets n'ont même pas été ouvertes pour y récupérer les effets personnels de leurs propriétaires. Il y avait une femme qui était assise à terre et qui pleurait, car elle ne savait pas où s'en aller, raconte-t-il. Tu perds tes repères. Tu perds tout. Il y a du monde qui n'a pas grand-chose dans la vie, et c'est extrêmement dur quand ils se font enlever les seules petites choses qu'ils ont, dit-il. Il y en a qui vont se planquer et se mettre à risque de mourir seuls. Vous écoutez Les Évincés de la rue, un dossier de Quentin Dufresne, paru le 18 août 2024 dans la presse. Une relationniste de la ville de Montréal, Camille Bégin, explique qu'on assume ses responsabilités et intervient afin d'assurer la sécurité urbaine et la cohabitation sociale. Pourtant, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur le droit à un logement convenable considère que les expulsions forcées sont une violation flagrante des droits de la personne et sont interdites en toutes circonstances, y compris dans le contexte des campements. Dans tous les cas, la Ville de Montréal opte pour une approche graduelle et adaptée auprès des personnes, avec un temps d'intervention leur permettant de se relocaliser et de contacter des organismes d'aide, assure Mme Bégin. Les campements posent des enjeux de sécurité. Pour la Ville de Montréal, les campements urbains ne sont pas une solution viable, sécuritaire ou pérenne. Mais pour Guylain Levasseur, il ne fait aucun doute que les démantèlements exposent les personnes à un plus grand risque de mortalité. Ils se font enlever tout ce qu'ils avaient, dit-il, et ensuite, ils doivent recommencer leur vie, mais à un moment donné, il y en a qui vont baisser les bras et ça peut mener à un suicide ou à une surdose, car il y en a qui sont découragés dans la rue. Il évoque l'histoire tragique de Sarah, une jeune trentenaire en situation d'itinérance qui se faisait démanteler tout le temps, selon lui. Cette dernière aurait perdu la vie à la suite d'une surdose alors qu'elle s'était isolée pour se mettre à l'abri des regards. Démanteler peut tuer. Ça te décourage, mais ça peut aller jusqu'à tuer, dit-il. S'ils sont déjà à terre, ça ne donne rien de leur en mettre plus sur le dos, car ils sont déjà complètement à terre. Des pistes de solutions. Mini-maison, intervention des pompiers ou encore terrain désigné. certaines municipalités canadiennes essayent de trouver des solutions originales à l'augmentation du nombre de campements qui touchent autant la ruralité que les centres urbains. Les emplacements désignés d'Halifax. Depuis 2022, la ville d'Halifax a décidé d'adopter une nouvelle approche pour tenir compte des changements qui ont un impact sur la crise des sans-abri. Elle permet aux personnes dormant dans la rue de rester dans des endroits désignés, que ce soit dans une tente ou dans un motorisé, jusqu'à ce que des options d'hébergement ou de logement aient été trouvées et offertes. La municipalité évalue constamment le besoin d'emplacements désignés, peut-on lire sur le site de la ville. À mesure que de plus en plus d'espaces d'hébergement intérieurs et d'options de logement avec services de soutien seront disponibles, davantage de parcs seront fermés, déclassés et redeviendront des espaces destinés à tous. En juin 2024, le maire d'Halifax ainsi que les membres du conseil régional ont affirmé qu'ils ne soutiennent pas l'approche « pas de campement », car il n'y a toujours pas suffisamment d'espace intérieur pour ceux qui dorment dans la rue. La municipalité s'assure également que chaque emplacement désigné ait des toilettes portables, une collecte des déchets, une distribution d'eau en bouteille et un entretien saisonnier, en plus de mettre en lien leurs résidents avec les ressources existantes. L'intervention des pompiers de Saskatoon. Depuis l'été 2021, le service d'incendie de Saskatoon, SFP, a décidé de traiter à la même enseigne les personnes en situation d'itinérance et les sinistrés d'un incendie. Yvonne Rimmer, chef adjointe du service d'incendie de Saskatoon, affirme « Nous parvenons toujours à trouver une option de relogement et si nous n'y parvenons pas, nous ne leur demandons pas de récupérer leurs affaires et de partir. » Désormais, deux inspecteurs du SFP se consacrent à temps plein aux résidents des campements, avec un roulement des inspecteurs chaque semaine. Ces derniers établissent un lien de confiance avec les résidents, les mettent en contact avec les ressources nécessaires et s'assurent d'éliminer tout risque d'incendie au sein des campements. L'objectif est d'abord de converser avec eux pour établir un lien de confiance et connaître leurs besoins. Parfois, cela nécessite plusieurs interactions pour qu'ils aient plus confiance en l'inspecteur. Et après, ils vont souvent demander de l'aide, explique Yvonne Rimmer. Le SFP met de l'avant la collaboration avec les résidents des campements en leur permettant d'y rester tant qu'ils acceptent d'accéder aux services proposés. Dans le cas contraire, une date est convenue avec eux pour qu'ils quittent les lieux. Il s'agit d'avoir une conversation et non pas de montrer les muscles, car personne n'est né pour être sans abri ou avoir des problèmes de consommation, explique la chef adjointe. Les inspecteurs désignés s'assurent également que les personnes aient de l'eau potable et des collations. En cas de températures extrêmes, ils assurent aussi un système de transport vers des endroits où il est possible de se réchauffer ou d'être au frais. Les mini-maisons. Partout au pays, des municipalités construisent des unités modulaires pour répondre à court terme à la crise de l'itinérance. Certaines villes, comme Peterborough, Halifax et bientôt Québec, mettent à disposition des abris, notamment pour les personnes qui ne correspondent pas aux critères des refuges. À Halifax, une enveloppe de 630 000 $ a permis la construction de 19 unités de couchage avec des toilettes séparées et même une buanderie. À l'échelle provinciale, la Nouvelle-Écosse a mis 7,5 millions de dollars sur la table pour l'achat de 200 abris préfabriqués. La ville de Québec s'apprête, elle aussi, à emboîter le pas. Dans son plan d'action en itinérance 2024-2026, rendu public en juin dernier, elle explique vouloir mener un projet pilote d'hébergement modulaire dans un quartier en périphérie du centre-ville. La municipalité prévoit également évaluer s'il serait pertinent de reproduire ensuite ce projet à d'autres endroits du territoire. Bien qu'innovantes, les unités de couchage possèdent toutefois plusieurs critères d'admission qui, comme dans les refuges, excluent certaines personnes en situation d'itinérance. Vous écoutez « Les évincés de la rue », un dossier de Quentin Dufresne, paru le 18 août 2024 dans La Presse. Comprendre les campements. Selon la rapporteuse spéciale de l'ONU sur le droit à un logement convenable, les expulsions forcées constituent une violation flagrante des droits de la personne et sont interdites en toutes circonstances, y compris dans le contexte des campements. La presse s'est entretenue avec la défenseure fédérale du logement, Marie-Josée Houle, dont le mandat est de s'assurer de façon non partisane que les gouvernements respectent le droit des personnes à un logement adéquat, et la candidate au doctorat en santé communautaire à l'Université de Sherbrooke, Caroline Leblanc. Cette dernière concentre notamment sa recherche sur le non-recours aux ressources en hébergement et sur la mortalité en itinérance. Qu'est-ce qu'un campement? Marie-Josée Houle. On parle d'un logement improvisé sur un terrain d'une façon légale ou illégale, que ce soit une tente, une voiture ou même un bateau. Ça peut être de gros groupes ou des personnes vivant seules. Chaque campement est différent, mais c'est toujours quelqu'un qui n'a pas de meilleure option. Ce sont des gens qui vivent en situation de grande vulnérabilité et qui sont exposés à tout, au public, aux éléments, au froid ou aux chaleurs, et qui sont là parce qu'il y a un manque de logement adéquat pour eux. Caroline Leblanc. Pour leurs habitants, les campements permettent l'appropriation de l'environnement, mais aussi d'avoir des biens. Les campements permettent de mettre en commun les ressources, donc d'augmenter le niveau de bien-être des personnes. Pourquoi les démantèle-t-on? Marie-Josée Houle. C'est parce qu'on les déshumanise et qu'on veut criminaliser l'itinérance. On blâme les individus au lieu de regarder les problématiques systémiques. Parfois, on utilise les excuses de santé et de sécurité. On met de l'avant des violations au code de feu, surtout l'hiver, car les gens doivent se garder au chaud, donc ils vont peut-être utiliser des moyens qui les mettent à risque. Il y a déjà eu des feux, il y a eu des décès, et oui, il y a eu des dommages, mais encore une fois, au lieu de fournir des tentes plus résistantes au feu, on trouve l'excuse de démanteler. On explique qu'il y a des ordures et que c'est sale, mais pour n'importe quelle personne qui est logée, il y a quelqu'un qui vient ramasser ces ordures. A-t-on la bonne approche à l'égard des campements? Marie-Josée Houle. Ce n'est certainement pas la bonne approche, car on n'a pas de solution à leur proposer. À moins que les gens aient été consultés et qu'on se soit assuré de leurs besoins, démanteler cause tellement plus de tort et encore plus de traumatisme. Il faut bâtir un lien de confiance. Mais quand on arrive et qu'on détruit leurs effets personnels, qu'on les enlève de chez eux et en plus qu'il n'y a pas de solution, ça ne le bâtit pas. Des fois, ça peut être de négocier un nouvel endroit où se mettre. Il faut vraiment prendre le temps d'avoir ces conversations et d'offrir de vrais choix. Ce n'est pas juste de donner un avis d'éviction et de leur dire qu'ils ont jusqu'à lundi et qu'ils doivent partir. Quelles sont les conséquences des démantèlements sur les personnes? Caroline Leblanc. Mes travaux de recherche ont vraiment démontré que les démantèlements pouvaient affecter leur santé physique, mentale et sociale. Ces gens-là vont être continuellement en mouvement ou plongés dans une peur de se faire démanteler à nouveau. Il y a aussi le déracinement, car plus on démantèle les gens, plus ça les plonge dans une crainte de se faire démanteler de leur espace. En réponse, Certains vont chercher à s'isoler davantage et trouver des lieux plus difficiles d'accès, ce qui peut provoquer une perte de lien social. Ça met aussi à risque les personnes d'être exposées à un taux de mortalité de beaucoup supérieur. Plus on déracine une personne, plus on l'ancre dans l'itinérance. Ces gens-là sont complètement désaffiliés. Ils sont exclus de notre système et sont percutés quotidiennement car les démantèlements ne sont pas situationnels. Quelle approche avoir vis-à-vis des campements et de leurs habitants? Caroline Leblanc. Il faut amener une plus grande collaboration de la communauté et qu'elle comprenne que ces gens-là n'ont pas d'autres espaces que l'espace public. Les besoins qui ressortent le plus de la part de ces personnes, c'est la stabilité, le sommeil, l'alimentation et le sanitaire. On ne peut pas arriver avec une seule solution. Il faut une multitude de services pour y répondre. Il va toujours y avoir de l'exclusion dans les initiatives. Il faut donc en avoir une diversité pour s'assurer qu'il y ait des options adéquates pour chaque personne. Il faut garder en tête que, malgré qu'on amène des initiatives, il y aura toujours des personnes qui vont continuer à vivre dans la rue. C'était « Les évincés de la rue », un dossier de Quentin Dufresne, paru le 18 août 2024 dans La Presse.
Les plaisirs du bain de minuit, un texte de Maude Goyer, paru le 11 août 2024 dans La Presse. À la mer, dans un lac ou dans la piscine chez soi, le bain de minuit a ses inconditionnels. Même s'il ne cherche à convaincre personne, il clame ses vertus haut et fort. Se baigner nu, pour eux, c'est l'essence de l'été et peut-être même de la vie. Se baigner nu, c'est un contact intime avec la nature, déclare Martin Bouffard, 53 ans. Je suis toujours dehors, je pratique des sports en lien avec les saisons. Me baigner nu dans la mer ou dans un lac, c'est normal, c'est naturel, ça n'a rien à voir avec de l'exhibitionnisme. Adepte de voile et de plein air, le réalisateur, photographe et caméraman avoue ne pas aimer gérer l'aspect maillot mouillé en sortant de l'eau. Qui aime ça? Pour la peau, ce n'est pas intéressant, c'est froid et ça colle, lance-t-il. Marilyn Monroe serait peut-être d'accord avec lui. Dans une scène improvisée du film non achevé Something's Gotta Give, 1962, l'actrice retire son maillot couleur chair dans une piscine. La star voulait marquer le coup et être la première vedette à faire un skinny dip au grand écran. Petite désobéissance. Dans la même décennie, les bains de minuit sont pratiqués par des jeunes de la génération Woodstock. Est-ce qu'ils y voient une sorte de rébellion contre l'ordre établi, un pied de nez aux normes sociales? Cela rejoint en tout cas la pensée d'Élise Tardif-Turcotte, une Montréalaise de 39 ans qui nous dit « C'est associé à la pure liberté, au pur bonheur. Se baigner nu, c'est une sensation le fun. Et il y a un petit thrill, une impression de contrevenir à une règle sociale. » Qu'elle le fasse avec son conjoint ou avec des amis, elle affirme qu'il n'y a rien de sexuel, rien en lien avec le voyeurisme ou l'exhibitionnisme dans cette pratique. On se donne cette liberté-là, sans jugement, comme des enfants, souligne celle qui habite une partie de l'année près d'un lac. Se baigner nu rime avec vacances et rythme de vie plus lent pour Geneviève, résidente de la région de Québec. Geneviève a témoigné sous le couvert de l'anonymat pour préserver sa vie privée. En camping avec son amoureux, au petit matin, elle ne s'embarrasse pas d'un maillot de bain pour plonger dans le lac, dit-elle. en précisant qu'il s'agit d'un endroit reclus, à l'abri des regards. Je sens l'eau sur tout mon corps. J'ai l'impression de m'ancrer dans le paysage, dans la nature, raconte-t-elle. Je me sens zen. Repos de l'esprit. Est-ce que ce sentiment de sérénité, de communion avec la nature est bien réel? Selon Alexandre Marois, professeur adjoint à l'École de psychologie de l'Université Laval, des études démontrent qu'un contact avec la nature apporte plusieurs bienfaits. Cela fait baisser le stress, augmente le bien-être, améliore l'image de soi et apporte un sentiment de restauration, affirme-t-il, tout en soulignant que ces études ne font pas spécifiquement référence au bain de minuit. Le sentiment de restauration est un sentiment d'apaisement, d'oubli des tracas du quotidien qui repose et renouvelle notre attention. Dans la vie de tous les jours, avec la multiplication des écrans et des tâches, souvent faites en simultané, notre attention est bombardée, explique M. Marois. Cela engendre une fatigue. Dans la nature, notre attention se porte naturellement vers notre environnement. On voit un beau lac, un beau sentier, un bel arbre. Il n'y a pas de coût attentionnel, c'est reposant. Selon un sondage américain réalisé en 2011 auprès de 1000 personnes et commandité par une marque d'eau embouteillée, 56% des répondants disaient avoir expérimenté les bains de minuit. Les plus pudiques ou les plus introvertis peuvent aussi être convaincus. C'est ce que croit Isabelle Brouillette, qui se qualifie de femme ronde en surplus de poids. Même si la nudité est taboue dans la société, dit-elle, et qu'elle l'est encore plus chez les gens au corps hors standard. Je me baigne nue une ou deux fois par été avec mon chum dans la piscine chez lui, glisse-t-elle. C'est simple, rapide, et il y a un côté acceptation de soi. J'essaie de m'assumer de plus en plus. Quand je pars en vacances, je porte dorénavant un bikini. J'en ai un fluo en plus. Mère et belle-mère d'adolescents, elle a peu l'occasion de faire des bains de minuit. Si c'était ailleurs et que j'étais certaine de ne pas me faire surprendre par les enfants, je le ferais plus, avoue-t-elle. Il faut que l'eau soit au-dessus de 80, par contre. C'était « Les plaisirs du bain de minuit », un texte de Maude Goyer paru le 11 août 2024 dans la presse.